là, c'est le PDB. Je vous appelle de Montauban. Je suis très inquiet. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Putain, on me dit que la tour Eiffel est en flamme. Ah, ensuite, qu'il y a un bus qui est en flamme, qu'il y a des policiers et il y a plein de pompiers. Mais qu'est-ce qui se passe à Paris? Il y a quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un incendie, con! Allez, Paris brûle-t-il? Ah, tenez-nous informés. Allez, c'était un message du PDB.
Ouais, salut, c'est Benjamin de Coulommiers. Là, je suis à Paris, dans un fourgon de prisonniers dans le cortège de la terre politique, avec 8 touchons, on s'est fait arrêter, il fait chaleur à crever. Et il y a des gens qui nous soutiennent dehors. Et donc, on est là, prisonniers dans le cortège olympique, on est dans le cortège.
Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Quel plaisir quand même de voir que le cirque de Pékin a toujours autant de succès. Puis ce beau spectacle à la limite de la pyrotechnie avec cette flamme qui s'allume, qui s'éteint, c'était très grand. Allez, on va bien rigoler bientôt.
Bonjour Daniel, Chantal Faure Umuraz dans la Drôme des Collines. Je viens en fait du Rwanda. Nous sommes le 7 avril, et là ça fait 14 années, après les massacres des Tutsis et Hutus modérés. 1 million de personnes sont tuées. Des centaines de milliers sont morts en fuite dans les pays voisins. Et cette humeur aujourd'hui suite aux conséquences du 94. Ne les oublions pas. Daniel, j'ai un livre à vous présenter. Une jeunesse rwandaise. En fait, c'est moi qui l'ai écrit. Je vous invite aussi dans mon pays, que vous connaissez peut-être déjà, pour un là-bas si j'y suis, à Nyamirambo, au sud ou au sud, en Chili, dans mon village. Vous verrez comme la jeunesse se bat pour aller de l'avant malgré tout. Je vous lis un petit extrait du livre « Une jeunesse rwandaise ». Quelqu'un en détresse attend la mort, sans savoir pourquoi tout doit finir. Pourquoi tout doit finir maintenant, ce soir, ce matin, cette année? Le désespoir de celui qui a vu les siens découpés en morceaux. Les diables, les osomas, les mémoriaux. Kibeo, Bicecero, Murambi, Gisozi. Le silence éternel. Voilà Daniel. J'espère qu'aujourd'hui, beaucoup de gens passeront au Rwandais. Comme c'est le 7 avril, le jour de la commémoration, je pense à vous moi aussi, dans mon coin, dans la Drôme, et je vous remercie de ce que vous faites, et bonne continuation. Au revoir.
Oh, ils t'ont fait bobo, ils t'ont lancé des canettes, hein, ils t'ont lancé des canettes, pourtant tu étais ni un politique, ni un représentant de l'ordre, pourtant t'avais la conscience tranquille. Qui là, t'avais fait un joli badge, mon doudou, mon gros doudou. Et puis un badge qui se voit bizarre, hein? Oh, t'es mis un interdit du stade. Oh oui, un guerrier, c'est ça. Et puis, qui c'est qui va être content? T'as été gentil? C'est Nicolas, mon gros doudou.
Bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe. C'est Françoise de Normandie. Aujourd'hui, je voulais rendre un hommage à un monsieur qui s'appelle Roger, qui va être inhumé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme d'extraordinaire? Il a été simplement pendant des dizaines d'années l'ouvrier d'une usine. Et cet homme, il a 65 ans. Il a pris sa retraite à 60 ans. Et c'est assez désespérant de voir une vie qui s'achève comme ça. Il a beaucoup trimé, il en a beaucoup bavé. Et malheureusement, ben voilà, il n'a pas profité de sa retraite. Ça fait toujours une économie, sans doute, dira le gouvernement. Ce serait bien qu'on fasse des statistiques pour savoir combien de gens, parmi ceux-là, combien de gens profitent de leur retraite. Hommage à lui et à tous ceux qui sont partis et à tous ceux qui, malheureusement, vont partir. Au revoir, Daniel.
Je suis une auditrice du Nord et j'aurais voulu savoir, par l'intermédiaire de France Inter, lors d'une de vos émissions, le sort qui avait été réservé aux personnes qui ont tenté à pied de faire 4 jours dans le désert pour rejoindre les États-Unis. Dans ce groupe, il y avait un enfant de 11 ans. Alors peut-être pourrez-vous me donner des nouvelles surtout de cet enfant, par l'intermédiaire de cette émission que j'écoute le lundi et même tous les jours sur France Inter.
Oui, et bien des nouvelles on en a, figurez-vous. On s'est informé du sort de cette équipée de clandestins mexicains qui s'apprêtait lors de ce reportage à franchir la frontière vers les États-Unis. On a eu des nouvelles pas bonnes du tout. Ils ont tous été refoulés vers le Mexique. Le garçon de 11 ans a été pris en charge par un orphelinat au Mexique et son père a été mis en prison. Voilà, très mauvaise nouvelle donc pour ces clandestins, ces Mexicains candidats au franchissement de la frontière. Et puis une autre aussi dont vous êtes nombreux à demander des nouvelles et très nombreux à vouloir l'aider, c'est Monica, cette Mexicaine, mère de 4 enfants, qui a été expulsée de la ville de Phoenix, où elle habitait en Arizona, alors qu'elle vit depuis... Elle vivait depuis 30 années en Arizona, aux États-Unis. Et donc, elle a été brutalement expulsée vers le Mexique. Et c'était à la frontière mexicaine qu'on l'a rencontrée. Elle a été brutalement expulsée en vertu de lois qui sont entrées en vigueur en Arizona en janvier dernier. Donc, elle est désespérée. Vous avez été très touché par son témoignage et vous voulez l'aider. Vous avez été nombreux à dire comment l'aider, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, on a trouvé un moyen pour lui faire. C'est évidemment urgent parce qu'on s'est renseigné aussi. Elle est toujours échouée sur ce poste frontière à Nogales. Donc, on a trouvé avec Guy et Antoine le moyen de lui venir en aide financièrement, bien évidemment. Mais c'est un processus pas très compliqué, mais qui pas forcément clair à expliquer par comme ça directement au micro. Alors ce que vous faites, vous nous adressez un mail et immédiatement en précisant pour Monica, hein, un mail en précisant pour Monica le mail, vous l'adressez à mon adresse qui est daniel.mermet@radiofrance.com daniel.mermet@radiofrance.com en indiquant Monica et on vous adressera tout de suite une petite marche à suivre pour lui faire parvenir quelques fonds. Et si vous n'avez pas de mail, vous pouvez le faire aussi bien par courrier, en adressant un courrier là-bas si j'y suis, en précisant Monica sur l'enveloppe, Radio France ou France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75016 Paris. Voilà. Aujourd'hui, donc, on est arrivé à Tijuana depuis hier, et Tijuana sur la frontière donc mexicaine. Et là, on va s'intéresser au sort des ouvriers et ouvrières parce que plus de 90% sont des ouvrières qui travaillent dans les maquilas ou maquiladoras, ces usines tournevis qui sont installées tout au long de la frontière. Et on va voir dans quelles conditions sont fabriqués tout un tas d'objets que nous avons sous la main, depuis le portable, le frigo. L'ordinateur ou le téléviseur ou les meubles ou tout ce que vous voulez, c'est fabriqué dans toutes ces usines dans des conditions dont vous vous doutez, mais vous allez découvrir, qu'on va découvrir ensemble. Et puis auparavant, on va s'intéresser aussi à une petite séquence, une brève séquence sur les OGM et sur le procès des faucheurs volontaires à Chartres. Antoine Chao a fait un tour hier à Chartres, on va avoir quelques échos. Et puis avant de passer au deuxième série de reportages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, je voudrais remercier spécialement cette auditrice qui a fait cette nécro de Monsieur Roger.
Allô, bonjour, je vous appelle pour laisser mon premier message, un moment d'émotion. Ça sera à propos donc d'un débat qui aura lieu au Théâtre 95, donc à Cergy-Pontoise, avec Jacques Attali. À propos, donc, ce sera une brève histoire de l'avenir, et je vais vous lire le début du prospectus pour vous mettre en haleine. Donc, haut fonctionnaire, conseiller politique, romancier, intellectuel, Jacques Attali présente l'ultime figure de l'honnête homme de la Renaissance. Proche des puissants, mais contestataire de l'ordre établi, sa vie et son œuvre se nourrissent l'une de l'autre et composent un tableau flamboyant. Voilà. Au revoir.
Bonjour. Ici Madame Thomasin-Nicole Veuve Rollin. Je téléphone pour savoir est-ce que je pourrais avoir une visite pour discuter de vive voix de certains problèmes qui me concernent. Merci.
Bonjour à tous, c'est Chantal. Il y a une question qui me turlupine à propos de l'histoire d'Ingrid Betancourt. C'est le sort des FARC prisonniers. Parce que, bon, si soi-disant Uribe est prêt à en libérer 300, mais qu'il les lâche tout de suite. Mais ce que je me demande, c'est sont-ils encore vivants? Dans quel état sont-ils? Je suppose que les prisons colombiennes d'Uribe ne sont pas des 5 étoiles. Ont-ils été torturés, découpés à la tronçonneuse? Enfin, il semble que c'est... il n'intéresse absolument personne. On dirait qu'on veut échanger Ingrid Betancourt contre un troupeau de bêtes qui n'a ni nom, ni vie, ni histoire. Voilà, donc moi j'aimerais bien avoir des nouvelles des prisonniers qui sont dans les prisons colombiennes de Uribe. Merci.
Bonjour, là-bas si j'y suis, et tous les auditeurs. Ici le repère d'Aix-en-Provence. Notre lieu de rassemblement habituel, la brasserie Le Mansart, accueillera un rendez-vous spécial ce mardi 8 avril à 19h30, le repas du repère. On réfléchit, on échange, on partage, oui, mais cette fois-ci on le fait différemment autour d'un tagine. Je précise, le repas, vin compris, c'est 15 euros par personne. À Aix-en-Provence, Le Mansart, c'est dans le quartier d'Ancagnane, place Martin Luther King. Tous les nouveaux venus sont les bienvenus, un peu comme au jeu des 1000 euros. N'oubliez pas, on mange un tagine et on refait le monde le 8 avril à Aix. Merci, au revoir.
Oui, bonjour Daniel et toute l'équipe de là-bas, c'est j'y suis. Nathalie de Nagne, un petit village des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, moi je suis enseignante et nous avons organisé des réunions d'information avec des parents d'élèves, des instituteurs, des professeurs, des lycéens. Et il y a un grand rassemblement qui est prévu pour aller de Nagne jusqu'à Pau, c'est-à-dire une vingtaine de kilomètres, habillés tous en noir et aller pique-niquer devant la préfecture. Pour nous battre contre la suppression des postes dans l'éducation nationale et la mise au cercueil de l'éducation pour tous les jeunes. Et ce sera le samedi 12 avril, le matin, et pour être à Pau, à midi, bien sûr. Au revoir, merci.
Ouais, vas-y, la police, elle a voulu cramer un bus.
Comment?
Ouais, la police, elle a voulu cramer un bus.
Mais non, c'est la flamme olympique.
Quoi?
Ah, c'est la flamme olympique.
Ah, j'ai cru qu'ils avaient voulu cramer un bus, la police.
Oh, vas-y.
Ah, c'est un truc de ouf. Ah, la police, elle a voulu cramer un bus.
Mais non, je te dis, ils ont mis la flamme olympique dans un bus.
Oh, vas-y, ils ont voulu cramer un bus, la police.
Ouais, ciao. Je vais me coucher. Allez, bye. Allez, je vous adore. Ciao.
Oui, salut Daniel et tous les auditeurs. Voilà, je vous appelle de Chartres. On a une actualité en ce moment sur Chartres, un peu au milieu de la Beauce, là, par rapport notamment aux OGM. Il y a le procès de 58 faucheurs, après celui qui avait eu lieu suite au fauchage de 2004, là. Donc, un procès de 58 faucheurs pour un fauchage qui a eu lieu en janvier 2007 à Pointville. On appelle tous les gens à s'informer d'abord, et puis éventuellement à venir sur place, soit au tribunal de Chartres, soit à la mairie, pour prendre des infos et puis se mobiliser, parce que ce deuxième procès est très important également. Le premier procès avait quand même abouti en premier jugement à une relaxe de tous les faucheurs, sachant qu'il s'était grosso modo passé ce qui se passe à chaque fois. Les juges avaient été totalement acquis sur le fond à la cause des faucheurs. Dans un deuxième temps, Monsanto bien sûr avait fait appel, et l'État français aussi, puisque le parquet a fait appel, et au deuxième jugement, les faucheurs ont été condamnés. Le deuxième procès, là, on ne sait pas vers quoi on se dirige. En toile de fond, on a quand même la loi là sur les OGM qui est en train de finir de se débattre aujourd'hui même, hein, à l'Assemblée. Donc, c'est pas aujourd'hui, c'est hier. Donc, c'est quand même très, très chaud. Ce que je voulais juste ajouter, c'est que à peu près 2 ans après le résultat de la condamnation, donc du premier procès des faucheurs, il a été décidé aussi de faire des prises d'ADN, ce qui est quand même relativement scandaleux, puisque ces faucheurs, même s'ils ont été condamnés, sont loin d'être des délinquants, ce sont des citoyens pour la société. Voilà, donc informez-vous, et puis venez sur Chartres si vous le pouvez, pour soutenir les faucheurs. Et puis, alors je voulais juste ajouter, il y aura des soirées d'information et toute la journée d'aujourd'hui et demain.
Oh, je ni ma gueule, ni ma main.
Alors, t'as vu ce film hier?
J'ai déjà vu. Donc j'ai passé pas mal de temps à bouquiner le livre, surtout, qui est beaucoup plus complet que le...
C'est assez accablant quand même pour Monsanto.
Mais bien sûr, oui. Mais on savait ça déjà en Angleterre depuis 10 ans au moins. C'est ça le problème. On, ici en France, on a la barrière de la langue. Et vous avez souvent 10 ans de retard sur les informations parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde pour communiquer. En plus, bon, c'est ça le problème.
Mais Monsanto a 10 ans de retard ici ou c'est les mêmes pratiques
Même pratiques.
Ouais.
Mensonges, calomnies, chantage à l'emploi et corruption, bien sûr. Et j'espère seulement que le juge va regarder le film.
Mensonges, calomnies, chantage à l'emploi et lobbying aussi violent et très pression de toutes sortes de Monsanto. C'est ce qui est montré entre autres dans le film de Marie-Monique Robin que vous n'avez pas manqué, Le Monde selon Monsanto. Le film était projeté hier soir et Antoine Chao était là. Et ben voilà, vous avez compris le message précédent de cet auditeur qui nous informait sur le procès des 58 faucheurs à Chartres. Comme il dit, renseignez-vous et une fois que vous êtes informé, eh bien vous voyez si vous avez envie de nous soutenir. En tous les cas, hier soir, vous savez aussi qu'il y a ce débat sur la loi sur les OGM actuellement à l'Assemblée nationale, que des députés de la majorité oscillent et que, bon, sur quand on voit, d'après ce film, ce que sont les moyens de Monsanto, les moyens de pression, c'est-à-dire tous les moyens, on peut quand même s'interroger et on s'interrogeait à l'issue de la projection de ce film, y compris des élus, une députée qui était là, Françoise Vallet, députée PS.
Qui c'est le plaignant demain là au procès ?
C'est Monsanto. Ils avaient porté plainte avant le film. Il en partirait. Mais...
En 2007, Monsanto employait 18 000 salariés dans une cinquantaine de pays. Tandis qu'à la bourse, le cours de ses actions ne cessait de grimper, ses bénéfices ont atteint 1 milliard de dollars. Parmi ses actionnaires, on compte des fonds de pension, des banques, mais aussi des centaines de milliers de petits porteurs.
Chris Horner.
Hello, Christopher Horner. I'm Marie-Monique Robin from France.
Oui, nous apprécions votre insistance à demander une interview, mais nous avons eu plusieurs conversations internes et nous n'avons pas changé notre position. Nous n'avons aucune raison de participer à votre documentaire, car nous suspectons que ce ne sera pas positif pour nous.
Il y a un tout petit mot qui apparaît dans le générique, qui est le mot « gift ». Et ce mot-là est un vrai faux ami. En allemand, il veut dire « poison ». En anglais, il veut dire « cadeau ». Je crois qu'avec ce petit mot-là, on résume assez bien toute la situation dans laquelle prétend être Monsanto, quand il dit qu'il veut faire un cadeau à l'humanité, que la face cachée de ce cadeau-là, c'est un vrai poison. Merci madame pour tout ce que vous avez fait.
Alors on vient d'assister au monde selon Monsanto, le film de Marie-Monique Robin. Et vous, alors vous venez d'annoncer que vous partez directement à l'Assemblée. Donc vous êtes...
Je suis députée de cette première circonscription. J'ai été élue à la suite d'une réélection partielle, c'est-à-dire à la suite d'une annulation de l'élection de juin dernier. Et donc je me suis substituée au député UMP et je suis élue, moi, du Parti Socialiste.
Alors on a entendu des élus UMP, justement, dénoncer un lobbying un petit peu... virulent de Monsanto. Vous en avez eu vent peut-être. Alors, vous ne l'avez pas subi parce que vous venez de prendre...
Mais on a aussi entendu mandat. Des députés UMP extrêmement troublés par cette situation, qui finalement rejoignent peut-être pas en totalité notre position, mais sont suffisamment troublés pour être déstabilisés et pour ne pas approuver toute cette proposition de loi telle qu'elle est envisagée. Il y a évidemment un lobbying dont on a vu les effets, le pouvoir de l'argent.
Aux États-Unis, là, dans le film, mais ça se passe en France ça, de la même
ça
façon.
Ça se passe, je ne peux pas vous dire si ça se passe de la même façon en France, mais ce que je peux constater, c'est que le lobbying, ben, et on a quand même, on a vu le pouvoir qu'a l'argent, on a vu le pouvoir à travers ce film que peuvent avoir certaines sociétés, sans parler uniquement de Monsanto, mais manifestement c'est Monsanto qui tire la dragée haute de tout le monde. On a vu aussi des exemples de compromission, de collusion, mais à contrario, on a vu aussi dans ce film des exemples de courage et de sincérité et de démarches extrêmement fondatrices de la réflexion des autres. Demain, vous avez lieu à Chartres un procès des faucheurs volontaires, autre expression de courage en même temps que d'incivisme, mais c'est la désobéissance civique et l'illustration même d'une désobéissance civique qui peut se résumer comme étant un mal pour un bien.
Et vous êtes optimiste alors pour cette loi qui est en...
Je pense que fatalement, elle va passer. La majorité de l'Assemblée nationale est ainsi faite. Le Sénat a déjà donné son feu vert. Mais c'est véritablement, outre que scandaleux, c'est extrêmement préoccupant. Parce que on a vu les effets, que nous sommes dans un cas de figure d'application du principe de précaution qu'on va piétiner. Voilà, merci. Je vous en prie.
J'ai pas votre nom.
Françoise Vallée, T-A-L-L-E-T.
Okay. Là, on peut voir la frontière, là, un peu plus loin, là.
Over there. Check.
¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la reflexión que hacemos de todo esto?
Ahorita lo que tenemos aquí en México son puras transnacionales por la globalización.
Tout ce qu'on a ici en Mexique aujourd'hui, c'est les multinationales qui profitent de la globalisation.
Estamos viviendo una era de hipercapitalismo, turbocapitalismo.
Salut, c'est la base où j'y suis, Daniel Mermet, avec Antoine Chao et Guy Van Cotil. En route pour Tijuana, aujourd'hui, Maquiladora.
Flight number 2, arriving from...
Un petit local syndical en entrant, on voit un poster de Che Guevara, mais là on voit que c'est aumente los salarios en la maquilla, et on voit un groupe de travailleurs qui avance vers un patron qui, comme tous les patrons, est représenté avec un chapeau haute forme. Il dit, nous voulons une augmentation des salaires dans les maquilas maintenant.
À côté, il y a une balance qui dit d'un côté journée de 8 heures et de l'autre un salaire juste, parce que
bien sûr,
parce qu'ici les journées c'est jamais 8 heures, c'est plutôt 12 heures.
On est en 1865, tu vois, on est à la fin du 19e siècle, et ça c'est les premiers militants socialistes qui bossent pour les droits, pour le travail de 8 heures, pour le travail dans la dignité, pour un minimum de droits. C'est exactement ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle.
Pour une libre organisation sans répression.
Voilà, et c'est les mêmes têtes, les mêmes pionniers, les mêmes histoires. Bon, il y a le Che en plus, il y a des figures comme ça. Mais c'est exactement ça, quoi. Bienvenue à Tijuana, bienvenue à Tijuana, Tijuana, parce que à Tijuana, on fabrique des télés. Demandez à un enfant comment s'est fait une télé. Il ne sait pas du tout. Et vous savez comment s'est fait une télé, et comment s'est fait un portable, et comment s'est fait un ordinateur. On ne sait plus. On ne sait pas. On ignore. Il y a 30 ans, quand on demandait à un enfant de dessiner un poisson, il dessinait un carré, il dessinait un poisson pané, et tout le monde rigolait en disant, vous vous rendez compte, les gosses savent plus que c'est que des poissons. Eh bien aujourd'hui, devant tous les appareils qui nous entourent, nous ignorons totalement, ou nous feignons d'ignorer, ou nous oublions qu'il y a quand même sur cette planète des hommes et des femmes, très souvent des femmes, qui les montent, ces appareils. Il faut des gens pour monter, c'est pas fait par des robots, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Nous n'avons plus du tout la perception de l'intervention physique et manuelle des gens, des travailleurs, des ouvriers dans la fabrication de ce qui nous entoure. Vous pouvez, dans votre rue, trouver manuellement un boucher qui travaille encore avec ses mains, un cordonnier, mais sinon, on n'a plus de notion de tout ça. Ici, à Tijuana, et tout le long de la frontière, pour les 2 millions d'ouvriers, surtout d'ouvrières qui travaillent dans ces usines, on compte environ 4000 usines le long des 3200 kilomètres de frontière. Eh ben, c'est la sueur qui est le parfum dominant, et les conditions de travail, ils sont très 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 durs. Sans parler évidemment de l'environnement. Ces usines ont été implantées dans les années milieu des années 60, sans aucune précaution pour toutes les questions d'environnement. Et ça aussi, c'est une catastrophe. Mais le premier détriment, c'est un détriment évidemment humain. Et quelle résistance par rapport à ça quand on est poussé par la pauvreté, par l'urgence et par la survie? Quelle défense on peut avoir? Quelle force on peut représenter pour obtenir des droits, du respect, quelques droits élémentaires? Eh bien, on a très 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 peu de défense. Il y a des syndicats, mais ils sont tous corrompus et bidons. On nous l'avait dit déjà quand on a commencé ce parcours à Brownsville, souvenez-vous. Et là, on entre dans ce centre, le CITTAC, Centro de Información para Trabajadores y Trabajadoras. Et c'est vraiment un havre, c'est vraiment comme les premiers chrétiens qui se planquaient dans des grottes pour exister et propager leurs idées. Et là, il s'agit simplement de la défense des uns et des autres. Donc, bienvenue à TV Juana.
La base es Isui.
Somos así, somos así. Somos mexicanos, lo decimos sin temor, tío, que nadie nos gana porque somos mexicanos. Si tú quieres pelear, nosotros te la damos, pero no respondemos, intentamos de fuerza. Siempre nos miras en una esquina, cotorreando con la raza o rapeando estas rimas. Como todo mexicano, sabes que no nos rajamos. Nos gustan las mujeres, con ellas nos peleamos. No, y nos llaman y nos tachan de groseros, no más porque somos al golpeamos al vato que nos falte al respeto. El que se mete con mi raza puede que hasta salga muerto. Veneno es mi nombre como un desmadroso. Yo no soy chaparra, mucho menos mentiroso. Las muchachas me dicen cariñoso y los pinches envidiosos me dicen que soy valioso.
Est-ce que vous savez combien de travailleurs mexicains travaillent dans les maquiladoras?
Bueno, en el país trabajan en maquiladoras alrededor de 2 millones de personas.
Il y a aux alentours de 2 millions de travailleurs dans ces usines de montage, las maquiladoras.
Pero con la recesión que está ocurriendo en Estados Unidos.
Y avec la crise en ce moment que vivent les États-Unis,
está habiendo despidos, sobre todo en Ciudad Juárez, de a miles de trabajadores.
Il y a des licenciements de milliers de travailleurs en ce moment, dû à la crise, uh-huh, notamment à Ciudad Juárez.
Mais sont des entreprises étrangères. Ces maquiladoras appartiennent à qui?
Las maquiladoras, por definición, son empresas extranjeras que vienen a México.
Ces usines de montage sont par définition des usines étrangères qui viennent s'installer au Mexique.
À cause de la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre est moins chère.
Aquí pagan el 10% de lo que pagan en Estados Unidos, en Japón, en otros países.
Donc ici, c'est parce qu'ici, effectivement, ça coûte 10%. De ce que ça coûte ailleurs, aux États-Unis ou au Japon.
Alors là, vous êtes une petite association syndicale. Il y en a beaucoup comme ça, à Tijuana. Ou bien c'est le seul lieu de lutte syndicale.
Pues lo que pasa es que la gente está muy desilusionada. No hay esperanza para que te organices, no, porque los sindicatos que hay aquí en México están a favor del gobierno, a favor de las empresas. Los sindicatos oficiales que hay aquí en México están en contra de los trabajadores, ellos.
Es que ce qui se passe, c'est que de toute façon, les ouvriers, là, ils sont assez pessimistes parce que c'est difficile de se défendre et de protéger les droits quand on sait que les syndicats sont corrompus et roulent pour les patrons.
La gente tiene miedo de organizarse porque las pueden golpear. Mismamente pueden quedar sin trabajo.
Les gens craignent de s'organiser en nouveau syndicat parce qu'ils ont peur de la répression violente.
Vous sauvez quelque chose.
La répression violente, en effet. Alors, on est dans ce local avec ces syndicalistes héroïques. Il faut rappeler quelques chiffres. D'abord, les horaires, c'est 10 à 12 heures de travail quotidien, 50 à 60 heures de travail par semaine, pour un salaire moyen de 750 pesos, c'est-à-dire environ $75 par semaine, et des congés de 6 jours minimum, et puis après, selon l'ancienneté, on peut avoir des jours supplémentaires. Il y a une sécurité sociale, mais on ne nous a pas précisé ce que cette sécurité sociale couvrait comme risque et quels étaient les remboursements. Voilà quelques indications sur les conditions de travail qu'on sait par ailleurs épouvantables dans ces maquilas. On dit maquilas ou maquiladoras indifféremment. Et vous vous souvenez qu'on nous avait dit à Brownsville la lutte de ces femmes pour arriver à obtenir un ventilateur alors qu'il faisait 45 degrés dans leur entreprise. Enfin, on sait que ce sont des conditions très dures. Pourquoi les hommes acceptent-ils, les femmes acceptent-elles de travailler dans ces conditions ? Aujourd'hui, pour les Mexicains, il y a trois issues pour les 54 millions de Mexicains, 54% de la population, c'est-à-dire à peu près 54 millions, effectivement, de Mexicains qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont la situation ne s'améliore nullement. Il y a trois issues. Il y a la frontière. Voilà, il a essayé de passer cette frontière, on vient de l'évoquer encore tout à l'instant. Et il y a le narcotrafic qui se développe et qui peut être une issue. Voilà, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et puis il y a ces maquilas, ces usines qui sont contre la frontière. Donc on voit que le rapport de force est absolument inexistant. Mais il faut revenir la cause de tout cela, ou ce qui a amplifié ces inégalités, c'est l'ALENA, ce fameux accord de libre-échange entre les Nord-Américains, entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, et qui est entré en vigueur en 1994. L'entrée en vigueur de l'ALENA a entraîné une augmentation du volume de commerce entre les trois pays, et cette augmentation a été de 116%. En effet, les investissements étrangers privés au Mexique ont triplé. En effet, les exportations mexicaines ont quadruplé. Mais en même temps, un indice qu'on appelle l'indice de Gini, G-I-N-I, qui calcule les inégalités, montrait que les inégalités augmentaient au Mexique. Donc, la conclusion est très simple. On dit, à qui profite cette modernisation, parce que c'est comme ça que ça s'est appelé, à qui profite cette ouverture? Il faut faire attention à tous ces mots qui ont l'air généreux et beaux, modernisation, ouverture. Et bien évidemment, ça a profité à une minorité de Mexicains. Mais pour les travailleurs mexicains de base, ça a été d'abord une perte d'emploi. Dans l'agriculture, j'ai évoqué l'autre jour les pertes d'emploi dans l'agriculture, c'est environ 1 700 000 emplois qui ont été détruits, et ça c'est un chiffre du secrétariat du travail du Mexique. Parce que depuis l'entrée en vigueur de l'ALENA, le Mexique importe les aliments qu'il produisait jusque-là. Il importe chaque année pour plus de 80 milliards de dollars de produits alimentaires. Le Mexique devait trouver un marché, grâce à l'ALENA, devait trouver un marché pour ses produits. Et c'est le contraire, c'est les produits qui sont venus inonder le marché mexicain. Un exemple, le maïs, qui est la céréale de base du Mexique et qui occupait 60% des terres cultivables, eh bien, avec l'ALENA, les exportations de maïs dans le sens États-Unis vers le Mexique ont triplé. Le maïs produit aux États-Unis étant fortement subventionné et ainsi 18 millions de paysans ont fait le frais de cette ouverture, même si de grandes firmes mexicaines ont profité de l'ALENA pour augmenter le prix de la tortilla. La tortilla, c'est la nourriture de base, c'est la crêpe de base du mexicain, mais qui est fabriquée par ces grandes entreprises, par ces grandes firmes, avec du maïs américain. Et donc, eh bien, l'ALENA s'est traduit par une baisse de 20% du salaire minimum au Mexique, ce qui a provoqué l'exode massif vers les villes. Des millions de gens sont au Mexique prêts à survivre à n'importe quel prix, que ce soit passer la frontière dans des conditions terribles, rentrer dans le trafic du narcotrafic, ou bien, comme là, accepter ces conditions terribles dans les maquiladoras le long de la frontière. On est avec donc ces syndicalistes qui se battent dans leur petit local, qui sont réunis ce jour-là, et c'est Manuel López qui nous parle.
Mi nombre es Manuel López.
Moi, je m'appelle Manuel López.
Ajá. Y tengo como 12 años que llegué aquí a Tijuana del suroeste del país.
Moi, ça fait 12 ans que je suis arrivé ici à Tijuana. Je viens du sud-ouest du pays, du Mexique.
Venía con la idea de ir a Estados Unidos, de irme para Estados Unidos a Los Ángeles.
Donc moi, j'avais d'abord l'intention d'aller aux États-Unis, à Los Angeles.
Pero eso ya hace mucho tiempo y me he quedado trabajando aquí en Tijuana y me quedó la opción de conseguir trabajo en las fábricas.
Mais en fait, je suis resté travailler ici pendant 12 ans à Tijuana.
Sí, porque la cuestión era de que no trae dinero uno de allá y viene con la esperanza de que aquí va a progresar y toda esa cosa, ¿no?
Entonces, je suis arrivé sans argent et j'ai pas réussi à gagner suffisamment pour traverser.
Sí, y se pusieron las cosas más difíciles ahí en Estados Unidos.
Petit à petit, les choses aux États-Unis sont devenues de plus en plus difficiles.
Antes no había barda, nomás habían unos alambritos así.
Parce qu'avant, il n'y avait pas de barrière, on pouvait traverser facilement, il y avait juste un petit fil barbelé.
Dos muros
pusieron. Maintenant, ils ont mis deux murs, on peut plus passer.
Sí, como me quedé aquí, empecé a trabajar en muchas empresas y principalmente japonesas.
Donc je suis resté du coup 10 ans ici, plus de 10 ans ici, et j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises, et notamment beaucoup d'usines japonaises.
Pues estuve primero empecé trabajando en Sanyo.
D'abord j'ai travaillé dans l'usine Sanyo.
Después estuve Panasonic.
Après je suis allé chez Panasonic.
Sony.
Chez Sony.
También, sí, Sony. Pero tuve muy mala experiencia trabajando ahí en esas empresas porque el trato
j'ai un très mauvais souvenir du boulot dans ces usines là
porque el trato es muy muy duro
y ils nous traitaient très mal
y la presión que le dan a uno para trabajar es muy fuerte pues todo
on
el
était
tiempo.
Tous sous pression vraiment pour travailler.
C'est-à-dire, c'est quoi la pression?
Pues la presión es de que como se trabajan por bandas que se mueven bien rápido así.
Parce qu'on comme on travaille à la chaîne, les cadences sont très élevées.
Y entonces nos dan mucha presión, o sea que tenemos que hacer las cosas bien rápido, los miden el tiempo
on
para
est,
que
on est pressé par le temps.
On doit
faire le nombre de pièces.
No lo dejan ir al baño.
On n'a pas le temps d'aller aux toilettes.
Son muy estrictos en cuanto
a la
cuestión de horarios
y sur la question des horaires.
Los están exigiendo así que produzcamos y los exigen una
force à produire.
Los exigen una cantidad diaria que produzcamos un estándar, le llamamos nosotros.
Il faut faire ce qu'ils appellent le standard, il faut faire le quota.
Ellos le dicen target.
C'est la target, il faut atteindre la cible.
Por lo menos tenemos que hacer unos como 4000 unidades entre toda la
par exemple, il fallait faire les 4000, il fallait que la chaîne produise ces 4000 frigidaires.
En todo el día que son
une journée.
Son 10 horas de trabajo que
c'est 10 heures, je te parle de 10 heures de travail.
También quería comentar algo de Sony también. Sony es
j'aimerais vous parler de Sony aussi un petit peu.
Ajá, sí. Sé que es una empresa muy reconocida a nivel mondial,
¿verdad? C'est une marque très connue au niveau mondial.
Pero más sin embargo, la gente no sabe lo que cómo se trabaja ahí también
con les gens ils savent pas comment on est traité dans leurs usines.
Y luego la Sony es una de las empresas que paga los salarios más bajos de Tijuana.
Plus, Sony c'est ceux qui payent le moins bien ici à Tijuana.
Qu'est-ce que c'est Sony par exemple, combien ils payent aujourd'hui?
Está pagando como 600 pesos.
Aujourd'hui,
promedio.
Il paye une moyenne de 600 pesos par semaine.
$60 par semaine. Pour combien d'heures chez Sony?
50 horas a la semana.
Bah, c'est comme dans les autres usines, hein, 50 heures par semaine.
O sea, 10 horas diarias.
10 heures par jour, quoi.
10 heures par jour, $60 par semaine, pour fabriquer quoi?
Télévisions et...
Surtout des télévisions
ici. Et moniteurs pour computadora.
Et des écrans pour ordinateur.
En una de las plantas, porque había como cinco plantas aquí en
Tijuana. Moi, je te parle d'une chaîne de montage, hein, d'une usine de montage, mais il y en a 5 ici à Tijuana.
Voilà, voilà, un casque Sony. T'as pas honte de porter un casque Sony qui a été fabriqué dans ces conditions-là? Non, parce qu'on ne croit pas que c'est fabriqué tout ça. Toi, tu changes ton portable, tu changes ta télé, tu changes ton truc et tout ça. C'est ces gars-là qui font le boulot, quoi. Qui a un homme avec des mains, ou une femme avec des mains, qui a vissé, qui a mis des vis là-dedans, qui a collé, qui est intervenu dans la fabrication, même si c'est pour appuyer sur un robot. On a séparé l'objet qu'on achète de l'homme qui l'a fait.
C'est ça.
Nous, on vit dans ce monde-là où il n'y a plus de travailleurs.
C'est non, c'est que le pouvoir que tiennent les médias de communication, pues, c'est le dinero, non? Ellos ponen el dinero para comprar todos los medios y ellos anuncian sus productos y la gente se envuelve en esa bola de consumismo, non?
C'est la force qu'ont les moyens de les médias aujourd'hui. Et donc on vend des images et puis c'est la société de consommation qui a pris le dessus et on vend des produits et les gens achètent des choses et puis on se rend pas compte.
Voilà, Sony.
Le monde est notre terrain de jeu et nous sommes là pour vous émerveiller. Le Blu-ray transforme le son et l'image pour tout rendre plus beau. Sony. Que le spectacle Sony commence.
Pero más sin embargo, la gente no sabe lo que cómo se trabaja ahí también.
Mais les gens, ils savent pas comment on est traité
par Sony.
Par Sony.
Dans leurs usines.
Oh, mais attention, hein. Il n'y a pas que Sony. Il n'y a pas que Sony. Il y a Lewis, il y a Gap, il y a Polo, il y a Ralph Lauren, Calvin Klein. Et des quantités de marques, de vêtements et d'objets qui nous entourent et que nous portons sont fabriqués dans ces conditions, comme on l'a vu en Indonésie, comme on l'a vu au Bangladesh, comme on peut le voir un peu partout si on ouvre les yeux. Pour ne pas le voir, il faut vraiment arriver à fermer les yeux, à fermer les oreilles, ou à avoir des guides touristiques qui ne vous invitent jamais et qui ne vous indiquent jamais ces lieux d'injustice sociale, de souffrance sociale terrible. Et là, il s'agit des maquillas. Et en plus, eh ben, ça marche. Les maquillas ont des problèmes parce qu'évidemment, les entreprises, celles que je viens de citer et d'autres, eh bien, se délocalisent vers la Chine où c'est 4 fois moins cher quand même. Hein, il n'y a pas que des flammes olympiques en Chine. Le boycott de la Chine. Bon, on en profite bien quand même. On en profite énormément de ces 500, 600, 700 millions de Chinois qui sont encore en dessous du seuil de demande, de pouvoir que par rapport à nos amis mexicains. Quelqu'un qui a un regard pointu et acerbe sur ce qui se passe à Tijuana, c'est quelqu'un qui habite de l'autre côté de la frontière à quelques centaines de mètres, on pourrait dire, mais du bon côté du Sony Side of the Street, c'est-à-dire du côté de San Diego, c'est Mike Davis. Mike Davis, on va parler de lui dans les émissions à venir. C'est un... Comment le résumer? Comment le mettre dans une seule boîte, celui-là? Il faudrait plusieurs boîtes pour le mettre dedans. Mike Davis est un chercheur, c'est un écrivain qui travaille sur plusieurs disciplines, mais qui a dans chacune de ces disciplines, qu'il fait coïncider les unes avec les autres, la même exigence, le même regard pointu. Et bien évidemment qu'il s'intéresse à ce qui se passe à sa porte, à ce qui se passe derrière cette frontière, en ce qui concerne les conditions de travail dans ces maquiladoras. Hier, Mike, on était à Tijuana. On a parlé avec des syndicalistes très courageux. On les a trouvés très, très courageux, qui sont des gens qui travaillent dans les maquiladoras, qui nous ont raconté le travail dans les maquiladoras. Et quand on est rentré dans cette petite salle comme ça, avec des affiches, des posters et l'ambiance de la réunion, je disais à Guy et à Antoine, on rentre dans le 19e siècle. Et on est à Manchester, peut-être à Liverpool, et c'est les premiers syndicalistes. Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, sur Tijuana, c'est cette situation-là? Est-ce que c'est vraiment un grand bond en arrière?
Sure. I mean, the maquiladoras are a version of Victorian industrial society.
Oui, les maquiladoras, c'est une image, une version de la société industrialisée à l'époque victorienne.
And many Mexican supporters of free trade in neoliberal politics believe that the maquiladoras would be a stairway.
Voilà, et beaucoup des soutiens, beaucoup des partisans mexicains du libre marché et de l'économie néolibérale pensaient que les maquiladoras ce serait une marche, une élévation.
Through greater investment, more technology.
Plus grands investissements pour plus de technologie.
Unskilled factory jobs would someday become skilled engineering jobs.
Comme quoi les travaux non qualifiés des usines un jour deviendraient des travaux qualifiés de chercheurs, par exemple.
But with the partial exception of the auto and auto parts industry in northern Mexico.
Mais à l'exception de l'industrie des pièces détachées et d'automobile et de l'industrie automobile qui est dans le nord du Mexique.
The value added. The engineering scientific part of the maquiladoras tends to stay on this side of the border.
La valeur ajoutée en termes de compétences scientifiques et d'ingénierie est restée de ce côté-ci de la frontière.
C'est-à-dire du côté des États-Unis.
Yes, Tijuana is interesting because the most dynamic part of the economy are the investments from Korea and Japan.
Tijuana est intéressant parce que la partie la plus active des investissements vient de Corée et du Japon.
Hyundai, Sony,
Mitsubishi.
But they keep the engineering and the value-added stuff either on this side of the border or back home.
Mais ils gardent tous les ingénieurs et toute la valeur ajoutée ou de ce côté-ci de la frontière ou chez eux en Asie.
These are traditional assembly platforms.
C'est juste des plateformes d'assemblage, quoi.
Pues he seguido trabajando todavía en fábricas. Bueno, me he cambiado a diferentes fábricas y tuve una experiencia el año pasado.
Là, j'ai travaillé dans différentes usines et l'année dernière, il m'est arrivé quelque chose.
Con una empresa de origen de Estados Unidos.
Los dueños, que se llama Sonnen.
Ellos reparan aparatos electrónicos. Todo lo que las tiendas de Walmart, de Target.
En fait, c'est le service après-vente de Walmart.
Ah, d'accord. Mm. C'est le service après-vente de Walmart. C'est-à-dire que tout ce qui ne marche pas que j'achète chez Walmart, c'est toi qui le réparais. C'est vous qui le répariez.
Sí, se lo daban a esta fábrica.
Oui, c'est nous qui réparions tout ça ici. Oui.
Pues lo que pasa que, como se tiene que sacar, el técnico tiene que reparar por lo menos unas 15, 18 unidades al día.
Alors il faut que le technicien il doit réparer à peu près 15 ou 20 appareils
de sonido, televisiones, hornos de microondas,
des fours à micro-ondes, des télévisions.
Entonces,
là on a un papier. Non mais là ça vaut le coup de s'arrêter un peu sur ce papier qui est assez formidable parce que tu as chaque opération qui sont décomposées parce qu'il y a un chronométreur. Alors par exemple, vérifier le display. 8 secondes. Là, il y a 30 secondes pour cette opération, 10 secondes, 40 secondes, 13 secondes, 8 secondes. Et ça, chaque fois, ça correspond à une opération. C'est-à-dire que chaque geste du gars, chaque geste, chaque regard, chaque geste est décomposé, quoi. Là, c'est 15 secondes. Là, tu dois pas mettre plus de 5 secondes. Et là, 10 secondes. On va travailler comme ça là-bas si j'y suis maintenant. Hein? Vous êtes d'accord?
C'est un peu ça déjà.
On va chronométrer tous les temps. Allez, hop. Non mais on va faire comme ça maintenant.
Ya si no cumpliste con lo que dicen los supervisores, te castigan, te descansan 2 días, 3 días.
Donc tu peux être mis à pied pendant 2-3 jours si tu tiens pas les cadences.
Y si sigues con lo mismo, si no le sigues produciendo, a mí me despidieron, a mí me sacaron
ellos. Et si tu produis pas suffisamment, si tu continues comme ça, tu te fais virer. Moi c'est ce qui m'est arrivé.
Là, c'est toutes les marques. Les
produits qu'ils arreglaient. Televisions, micro-ondes, tout ça.
Ah, pues. C'est ça que tu réparais.
Si, televisions, hornos de micro-ondes, mini-componentes, téléphones.
Voilà, des téléphones, des mini-chaînes, des petits appareils électroniques, c'est tout ça, quoi.
Là, tu nous racontes une histoire particulière ou bien c'est comme ça partout?
Pues, je crois que c'est le 99% qui occurre.
Je dirais que c'est dans 99% des entreprises que c'est comme ça.
C'est vrai ce qu'il dit? C'est vrai, vous êtes d'accord?
Non, je crois que c'est comme le 100.
Non, moi, je pense que c'est plutôt 100%.
Non. Parce que les empresas se tienen que registrar y eso es lo que se maneja como el 100, las que están registradas. Pero hay muchas.
Moi, je pense que c'est même plus de 100% des usines parce qu'il y a les usines doivent se déclarer et il y a beaucoup d'usines qui ne sont pas déclarées.
Por ejemplo, frente a mi casa está otra casa y abajo de esa casa está una maquiladora.
Donc il y a des ateliers clandestins, moi je le sais parce qu'il y en a une en face de chez moi dans un sous-sol et qui travaille de façon clandestine.
Esta fábrica clandestina no está incluida en el 100 pero también viola los derechos.
Donc celle-là, entonces, par exemple, elle n'est pas inclue dans les 100%, mais elle viole aussi les droits des travailleurs.
Por eso yo digo más del 100%.
Pour ça que je dis plus de 100%.
Il y a beaucoup d'entreprises comme ça, clandestines.
Muchísimas. Yo trabajé...
Énormément.
Yo trabajé en dos talleres clandestinos y frente a mi casa está otro.
Moi-même, j'ai travaillé dans deux ateliers clandestins. En face de chez moi, il y en a deux et il y en a encore partout, quoi.
C'était quoi l'activité de cet atelier?
Nuevo Milenio.
C'était le nouveau millénaire.
Le nouveau millénaire.
Nuevo Milenio.
Voilà comme on nous fait passer. C'est ça le nouveau millénaire.
Qu'est-ce que tu fabriquais dans le nouveau millénaire?
Des Estados Unidos traían tela ya cortada. Et ahí se hacía el ensamblaje de ropa.
Donc là, c'était des tissus qui arrivaient des États-Unis. On les assemblait.
Est-ce que c'est mieux payé clandestin ou légal?
Yo creo que les va peor a los trabajadores de maquilas clandestinas porque ellas no pagan seguro social.
Je pense que c'est pire pour les travailleurs des maquilas, des ateliers clandestins parce que ils ont pas de sécurité sociale.
Y pues todos los derechos los violan, tienen más facilidad.
Donc tous ces ateliers, ils violent tous les droits du travail.
Est-ce que tu as essayé de passer de l'autre côté, de passer vers les États-Unis?
No, porque cuando conocí las historias de gente que moría de y porque yo también yo tengo familia que ha cruzado al otro lado y bueno, con las historias que me contaron, la verdad es que me dio mucho miedo y nunca intenté.
Non, moi j'ai jamais essayé parce que j'ai entendu trop d'horreur sur trop de malheur sur les gens qui passent et ma famille, j'ai de la famille qui est passée de l'autre côté et ils m'ont raconté aussi toutes les difficultés et j'ai toujours eu peur de traverser.
Et pourtant, longtemps, les entreprises, ces maquiladoras sur la frontière, envoyaient des recruteurs à travers le Mexique pour ramener des travailleurs vers ces entreprises. Une conclusion provisoire, Mike Davis.
All the industries along the border could disappear overnight.
Toutes les industries qui sont de ce côté-ci de la frontière pourraient très bien disparaître du jour au lendemain.
They could be in Guangdong.
Ça pourrait très bien être à Canton.
Or in Vietnam.
Ou au Vietnam.
So the maquiladora economy, apart from some of the auto plants, yes, it's not a sustainable model, and it's been created at the cost of domestic sector manufacturing jobs.
Voilà, et toute cette économie de maquiladora, ça n'a pas été un modèle viable de développement.
There is no net industrialization. There is no net growth in manufacturing jobs.
Il n'y a pas de vraie industrialisation, il n'y a pas de vraie croissance nette de la richesse.
Yet Mexico must create a million jobs a year at least. Just to keep unemployment constant.
Le Mexique doit créer au moins 1 million d'emplois par an, juste pour garder le taux de chômage constant.
Now, obviously, immigration to the United States and repatriation of earnings from the United States.
Ce qui est évident, c'est que l'immigration aux États-Unis et l'envoi d'argent depuis les États-Unis jusqu'au Mexique
have reduced this, it made this explosive situation manageable.
C'est ça qui a permis à cette situation de ne pas exploser et de rester à peu près stable.
This is the one and in my mind only true thing that the nativists say.
Et c'est la seule chose à peu près juste que disent les mouvements anti-immigration.
That immigration has been absolutely the safety valve to preserve the structure of one of the most unequal societies in the world.
C'est que l'immigration est un peu la soupape de sécurité qui a permis d'empêcher l'explosion d'une des sociétés les plus inégalitaires du monde.
Certainly, you'll find many examples of dynamic entrepreneurialism in contemporary Mexico.
On pourra toujours trouver des entrepreneurs dynamiques qui essaient de montrer l'exemple dans le Mexique d'aujourd'hui.
But the big money, the great fortunes, are moved in, become real estate investments in the United States.
Mais les grandes formules, le grand argent, il a été réinvesti dans l'investissement immobilier aux États-Unis ou ailleurs dans le monde.
And the reason is this: that wealthy Mexicans, you know, their income, like Slim, comes from privatizing national telecommunications or whether it comes from drug dealing. That money all moves out of Mexico. It's parked in the safe havens. There are something like 150 Mexican millionaires living in Mount Soledad in La Jolla.
C'est-à-dire que les très riches Mexicains, que ce soit le plus riche milliardaire au monde, M. Carlos Slim, qui a fait sa fortune par la privatisation des télécoms mexicains, ou que ça soit les grands dealers de drogue mexicains. Je crois qu'il y a plus de 150 millionnaires mexicains qui habitent à La Jolla, qui est le Neuilly de la Californie.
Merci à tous, merci à Mike Davis, Sandrine Laurent et Philippe Duclos qui étaient à la technique aujourd'hui, Yann Chouquet et Raphaël Moutier ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry, qui attend également vos messages au répondeur de la base Suzuki dont le numéro est 01 56 40 37 37. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La base Suzuki, où vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur labas.org, la-bas.org, réclame.